CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Mais, Paris,
ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume, mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume et piochant les passions d'un rossignol titan. Capable d'assurer le sacre du printemps.
Mais, Paris. 50 ans après, dernière émission rétrospective. Quel était le rôle des médias en 68 et quelles sont les perspectives des jeunes d'aujourd'hui sur mai 68? Eh oui, soyez des nôtres pour cette dernière émission rétrospective aujourd'hui des midi. CIUT 89.5 FM et nous remercions la collaboration de France Inter et Radio France Internationale.
Hello.
Bonjour. Ceci est un message enregistré pour Madame Jacqueline Tremblay.
Oui.
Ceci est pour confirmer votre achat des sous-vêtements Victoria's Secret. Un montant de 140 €.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information. Une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
J'ai des amis hollandais.
Yeah.
J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
moins.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
On t'y goûte miel, on t'y goûte fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Et oui, bonjour à tous nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Olga Lambert qui est en Afrique. Et oui, est-ce que vous avez votre passeport? Oui, le Festival Karasoga, mesdames, messieurs, dernière chance aujourd'hui. Et Mariette Muller en direct de Winnipeg au Manitoba. Et aussi le Festival de films Gay Inside Out Toronto qui se poursuit jusqu'au 3 juin prochain. Et bienvenue aussi à tous ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois. Beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui sur le campus de l'Université de Toronto, Hot House, welcome on board. Et aussi hommage spécial à l'homme de la radio, Pierre Belmar, décédé samedi. Et aussi quoi d'autre, nous invitons tous ceux et celles qui nous écoutent d'aller faire une tournée dans les musées de l'Ontario. Ils sont nombreux et le temps y est très clément. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera et Animation Production, votre serviteur depuis 30 ans, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm pour télécharger l'émission tout le long du jour, de la journée ou de l'année. C'est www.popourishow.com, The Sound of Your City, le son de votre ville. Du 4 au 10 juin 2018, la seule et l'unique émission en langue française à la radio de l'Université de Toronto compte sur vos dons, votre générosité pour continuer notre mission. Devenez membre, aidez-nous à garder l'antenne et courez la chance de gagner un voyage pour deux au Costa Rica. Et si vous voulez envoyer un petit don pour nous, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. Et au menu ce dimanche 27 mai, un menu très spécial, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Ledoux en tant qu'invité spécial à ne pas rater avant la fin de cette demi-heure. Mai 68, 50 ans après, dernière émission rétro, quel était le rôle des médias en 68 et quelles sont les perspectives des jeunes d'aujourd'hui sur mai 68? Et mai 68 a eu aussi un impact partout à travers le monde et surtout aux États-Unis. Nos invités aujourd'hui, Gilles Schneider et Patrick Pesneau, les voix d'Europe 1 et RTL en 1968, collaboration spéciale France Inter. Connaissez-vous l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne en 2017? Et oui, engagée au sein de la francophonie, courageuse, reconnue pour ses talents, ses atouts académiques et en plus, elle brasse bien les affaires à Winnipeg, au Manitoba. Elle vit dans cette province, elle y est née d'ailleurs dans cette province. Notre invitée spéciale aujourd'hui, Mariette Muller, elle est présidente directrice générale du World Trade Center de Winnipeg, au Manitoba. Avez-vous votre passeport pour le grand voyage du festival Karasoga qui se termine ce dimanche? Le plus grand festival multiculturel en Ontario entame sa 32e année consécutive et le pavillon d'Afrique en profitera pour célébrer ses 13 ans. Dernière journée aujourd'hui et nous sommes fiers d'être partenaires à cette activité. Notre invité Olga Lambert, directrice de People of Motherland, un organisme à but non lucratif dans la région de Toronto. Et francophonie internationale avec les scandales entourant Michael Jean, sa candidature, madame, monsieur, est dans l'impasse. Et oui, le Canada peut-il tirer son épingle du jeu? La France a déjà tranché. Et oui, élection en Ontario, la bataille dans la banlieue de Toronto est féroce. Pourquoi les immigrants francophones boudent-ils la politique ontarienne? Rencontre, je vous rappelle, avec Carole Gelin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, dimanche prochain, le 3 juin, à ne pas rater, une émission spéciale LGBTQI. Le premier ministre Justin Trudeau a reçu le prix de leadership d'Égal. C'est un organisme qui œuvre pour l'avancement des droits des personnes homosexuelles, gays, lesbiennes et transgenres. C'était tout un gala jeudi dernier. Gala inaugural National Identité d'Égal Canada jeudi soir. Et enfin, les bons plans de nos partenaires à ne pas rater. Nous remercions beaucoup la Société d'Histoire et tant d'autres encore qui nous ont envoyé des invitations, des bons plans pour les semaines à venir. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci. Merci, chers amis, d'être là. Les buzz de nos médias partenaires du journal Express de Toronto. Cette semaine, une nouvelle attaque a frappé le Grand Toronto. Les citoyens irlandais ont majoritairement voté oui au référendum sur l'abrogation de l'avortement. Et Giuseppe Conte devient le nouveau premier ministre italien. Il voyage en taxi, s'il vous plaît. D'autres événements marquants ont aussi rythmé la semaine à lire absolument dans le journal Express de Toronto. Et oui, le temps commence à manquer pour la première ministre sortante de l'Ontario, Catherine Wynne, afin de convaincre les électeurs, selon un récent sondage de la firme Ipsos. Si une élection avait lieu aujourd'hui, le Parti libéral de l'Ontario perdrait son statut de parti politique officiel à Queen's Park et ne récolterait que 6 sièges le soir du 7 juin. Et oui, retour de situation contre toute attente. Les néo-démocrates devancent maintenant les progressistes conservateurs à 2 semaines de l'élection provinciale. Selon le dernier sondage Ipsos, le NDP est à 47% et les conservateurs à 36%. Doug Ford est dans les beaux draps plutôt avec des révélations de fraude et de fausses représentations. Résultat, les électeurs sont de plus en plus méfiants envers les conservateurs. Les libéraux traînent dans les sondages et risquent d'aller à la dérive avec très peu de sièges, 6 ou 7 sièges. Pour ma part, c'est une campagne électorale qui n'intéresse pas grand monde, pas de vrais enjeux. C'est morne, c'est ennuyeux, candidat, candidate sans charisme et pas de candidat vedette. Intéressant, article à lire absolument dans le hashtag ONFR. D'ailleurs, toujours sur ce site, les formations politiques avaient du pain sur la planche devant le questionnaire de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Plusieurs dossiers francophones sortent à l'ordre du jour, dont le dossier de l'Université de l'Ontario français. Contrairement à 2014, les 3 partis officiels à Queen's Park ont répondu cette fois-ci à temps au questionnaire. Tant mieux, tant mieux. Mais les réponses divergent. Toujours dans hashtag ONFR, pourquoi les immigrants francophones boudent-ils la politique ontarienne? Manque d'organisation, nous dit-on, absence d'éducation civique ou encore mauvaise intégration de nouveaux arrivants par la province. Les hypothèses qui pourraient expliquer le désintéressement des immigrants francophones envers la politique ontarienne sont multiples. Quels sont les enjeux pour les francophones dans cette élection? Dimanche prochain, nous recevrons M. Carole Gelin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et si cela vous tente, participez au débat organisé par TFO et Radio-Canada mardi prochain, le 29 mai, dans l'atrium de Radio-Canada. En 30 ans de présence en Ontario, c'est une des pires campagnes électorales du jamais vu. En France, la marée populaire promise par Mélenchon n'a pas eu lieu. Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Paris et en province avec l'espoir de former une marée populaire contre la politique d'Emmanuel Macron. Cette super fête à Macron, selon les propos de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, rassemblait quelque 250 000 personnes dans le pays selon les organisateurs et 93 000 personnes environ d'après le ministère de l'Intérieur. Dossier éducation en Ontario depuis des années, pour ne pas dire des siècles, des parents francophones réclament une école secondaire dans l'est de Toronto depuis des très très longtemps. Finalement, le conseil scolaire Viamonde organisera le 14 juin une réunion d'information sur son projet d'école secondaire française dans l'est de Toronto. La séance de questions aura lieu à l'école élémentaire de la Mosaïque à 19h. Francophonie internationale, de plus en plus le Canada doute de soutenir la candidature de Michaël Jean. Avec les scandales entourant cette dernière, le Canada peut-il tirer son épingle du jeu? La France a abandonné Michaël Jean cette semaine pour appuyer la candidature d'une Rwandaise. Êtes-vous pour ou contre Michaël Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? Popori@cut.fm. Nous attendons vos réponses. Dossier justice et francophone, le barreau du Québec devra se désister de sa poursuite en justice contre le gouvernement du Québec au sujet de l'adoption bilingue des lois, s'il faut en croire le vote qui s'est tenu en Assemblée générale extraordinaire jeudi soir. Par une mince majorité de 52,5%, les avocats réunis au centre-ville de Montréal ont voté en faveur d'une résolution en ce sens. Dossier LGBT, toute une soirée de célébration jeudi dernier à l'hôtel Hilton de Toronto. Le premier ministre Justin Trudeau a reçu le prix de leadership d'Égal 2018 au gala inaugural national d'identité d'Égal Canada. Près de 400 membres de la communauté LGBTQI2S, politiciens, militants, syndicaux, gens d'affaires, artistes et alliés représentant divers secteurs, organismes et entreprises étaient au rendez-vous. Depuis plus de 30 ans, Égal Canada travaille sans relâche à améliorer la vie des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et bispirituelles partout au pays. Selon le magazine Fugue, un premier musée LGBT canadien pourrait bien avoir lieu à Ottawa en 2021. Incroyable. En Haïti, des organisations populaires et syndicales ont tenu un sit-in le vendredi 25 mai, vendredi dernier, devant les locaux de plusieurs institutions publiques du pays contre l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Au Nigeria, Amnesty International a accusé jeudi l'armée nigériane d'exactions sexuelles envers les civils dans sa lutte contre les islamistes du groupe Boko Haram, violant en échange de nourriture des femmes et des filles réfugiées dans des camps de déplacés du nord-est du pays. L'armée a aussitôt démenti ces accusations, qualifiant ce nouveau rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme de mensonger. Dossier santé. Que sait-on sur la molécule du bonheur? La sérotonine naturelle attire l'attention des chercheurs pour son rôle majeur sur la qualité du sommeil et de l'humeur, autrement dit, sur la joie de vivre. De Radio France Internationale Culture, bien triste nouvelle, il était surnommé la voix d'or du Mali. Kassé Madi Diabaté est mort jeudi 24 mai à Bamako à l'âge de 69 ans. Kassé Madi Diabaté était l'un des plus grands griots maliens. Et oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris une fois, si ce n'est le plus grand avec sa voix d'or. Il incarnait des pans entiers de l'histoire du Mali. Le chanteur était né en 1949 dans le petit village de Kéla, près de la frontière guinéenne, berceau de la civilisation Mandé. Eh oui, madame, monsieur, c'est avec une triste nouvelle, beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de Pierre Belmar. Il nous a laissé samedi. J'aurai l'occasion plus tard d'amasser peut-être quelques bribes d'informations et des reportages, des hommages des confrères de certaines radios, certains médias en France pour vous parler un petit peu de cette grande disparition. C'était vraiment quelqu'un qui... C'était l'homme de la radio, la voix d'or de la radio. Et oui, il est, je vous rappelle, le plus grand conteur de l'histoire de la radio et de la télévision, Pierre Bellemare, qui a longuement officié sur Europe 1 en France, est mort à l'âge de 88 ans, samedi à Paris. Depuis 65 ans, la voix chaude et grave de Pierre Bellemare réjouissait les auditeurs et les téléspectateurs partout en France. Cette voix qui rendait chaque histoire captivante était l'inventeur de la radio moderne, une voix historique car c'était la grande voix des deux grandes radios périphériques après-guerre, des radios dont l'émetteur n'était pas sur le sol français. Il avait une grande connaissance de la radio, témoigne Michel Drucker au micro d'Europe 1 ce matin. C'était quelqu'un de polyvalent, à l'aise partout, un colosse avec une moustache et une voix extraordinaire, comme toutes les stars qui ont commencé par la radio. La voix de Pierre était reconnaissable à la seconde. C'était un pionnier qui a marqué l'histoire de la radio, mais aussi de la télé, puisque c'est lui qui a inventé le télé-shopping, télé-achat. Nos condoléances les plus sincères à sa famille et ses amis. Que ce soit à Toronto, Montréal, Cannes, Paris, Lyon, Marseille, ou Winnipeg, au Manitoba, Lille, trouver et louer un logement relève parfois du parcours du combattant. Preuve en est la multiplication des émissions de télévision aidant les particuliers à louer, acheter ou vendre un logement. Outre les agences et les sites immobiliers dédiés aux particuliers, d'autres méthodes existent aujourd'hui pour trouver puis louer le logement de vos rêves. Décryptage de ces techniques à adopter d'urgence avec un invité bien bien spécial, Monsieur Ledoux.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
C'est bien l'agence immobilière?
Oui.
Ah, très bien, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin.
Oui.
Pour l'appartement, là, le deux pièces, dans le centre de Cannes.
Oui. Sur quel support monsieur?
Le journal, Figaro.
Ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements.
Ah, hein. Je vous remercie.
Allô?
Bonjour, madame.
Oui, monsieur, bonjour.
Excusez-moi de vous déranger.
Mais je vous en prie.
Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement.
Oui.
L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin.
Oui, dans le Figaro, hein?
Voilà.
C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein?
Ah, très bien.
C'est pas du meublé.
Il y a des gens dedans?
Ah non, il est vide pour le moment.
Ah,
il
a été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement?
Non, monsieur.
Ah.
Non, non, je vous dis, il est vide.
Alors. Quel volume fait-il?
Il fait dans les 50 mètres carrés.
Cube, vous voulez dire, le volume?
Ah ben, le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable.
Hauteur de plafond?
2,50 mètres.
Donc ça fait 2,50 multiplié par 50.
Et vous faut le volume pour quoi?
Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près.
Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous?
Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer.
Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord.
Voilà. Alors, donc, il est à quel étage?
Il est au sixième étage.
Sans ascenseur?
Ah, si, il y a un ascenseur.
Ah, ben, dommage.
Pourquoi dommage?
Ben, vous savez, madame, je suis un sportif.
Ben, et vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur.
Ah, il y a des escaliers, alors.
Ah, ben, évidemment.
D'accord. Alors, combien de portes?
Pardon? Combien de quoi?
De portes, madame.
Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes.
Bah, écoutez,
c'est la première fois qu'on pose une telle question.
Madame, vous connaissez l'appartement?
Oui, mais alors attendez. Alors, il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre.
Ah, il y a des toilettes?
Oui.
Dommage.
Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes.
Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame.
Ah, ça vous sert à rien, les toilettes?
Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils, hein. Aux toilettes.
Oui, non, mais j'ai compris. Papa, vous me surprenez un petit peu, parce que, bon, c'est vraiment la première fois qu'on... J'ai encore jamais vu, au XXe siècle, un appartement où il n'y a pas de toilettes dans l'appartement, même s'ils vous servent à rien.
Moi, j'en ai fait un placard, madame.
Et votre fils habite où?
Mon fils habite à Paris.
Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident.
Madame, j'ai un anus artificiel. Hein.
Ah oui, mais il faut me le dire.
Enfin, vous ne me l'avez pas demandé, madame.
Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein.
Bah, donc vous m'avez dit il y a trois portes. Hein.
Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a cinq portes.
Ah.
Ah, et la porte de la cuisine, six portes.
Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre?
Mais vous voulez la mettre où?
Ben, entre le salon et le couloir.
Mais il y en a une déjà.
Oui, mais moi je préfère quand il y en a deux, comme ça je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non fumeur?
Que vous appelez un espace non fumeur?
Où on n'est pas obligé de fumer.
Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas.
Donc il y a un espace non fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon?
Mais je sais pas, monsieur, vous c'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi?
C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée, là, en plus.
Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien?
Je sais pas, monsieur.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT-FM continues to be the sound of your city. Of course, we can't do it without your generous support. Our spring membership drive starts on June 4th, but donate before then and you'll be eligible for numerous early bird prizes, including a bike courtesy of Urbane Cyclists, tickets to see Mavis Staples live at Massey Hall, and more. Visit www.ciut.fm to donate. CIUT 89.5, Toronto.
Eh oui, bienvenue sur Popourri Show, CIUT 89.5 FM. Nous sommes fiers que vous soyez là avec nous depuis 30 ans. N'oubliez pas, dès le 4 juin, nous comptons sur vos dons, madame, monsieur, où que vous soyez à travers le monde, à travers la planète. Je sais que nous recevons des dons de France, de l'Allemagne et peut-être à bientôt d'autres provinces au Canada. Connaissez-vous l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne en 2017 dans un instant? Et avez-vous votre passeport pour le grand voyage du Festival Karasoga Pavillon Afrique qui se termine en ce dimanche? 13 ans déjà, Pavillon Afrique, bravo, félicitations. Nous recevrons Olga Lambert, notre amie directrice de People of Motherland, vers 12h30.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle couleur de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. Une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, viens nous chanter ses peines et ses espoirs. Me dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots juste dans les collèges. Et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Et oui, connaissez-vous l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne en 2017? Elle est la représentante du World Trade Center de Winnipeg sur la scène internationale. Elle siège sur des conseils d'administration d'envergure globale, tels que la Fondation Canada-Israël pour la recherche et le développement industriel et le Conseil d'affaires turco-canadien. Outre ses fonctions, elle n'hésite pas à se porter bénévole comme membre actif sur plusieurs conseils d'administration et d'organismes au Manitoba, dont entre autres le comité d'administration de musique et film Manitoba, coprésidente de la Société haute des Jeux du Canada en 2017, prix et distinction, l'Ordre des francophones d'Amérique. Elle a reçu aussi la Women's of Distinction of YMCA, YWCA dans la catégorie Leadership, la médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elisabeth II, le prix d'excellence promotion de la dualité linguistique. Mesdames, messieurs, accueillons chaleureusement celle qui veut normaliser le français au Manitoba. Et c'est Mariette Muller, présidente directrice générale de la World Trade Center de Winnipeg. Et c'est la première fois que nous avons cette chance, ce bonheur de l'accueillir à notre antenne.
une heure de décalage hein, entre Winnipeg et Toronto. Il est 10h30 à Winnipeg, Manitoba, et 11h30 à Toronto. Et nous sommes toujours bien au Canada. C'est un grand pays. Bonjour et bienvenue à notre émission, Madame Mariette Muller.
Quelle intro! C'est magnifique!
On a beaucoup de plaisir ici. Vous savez, on ne se prend pas tellement au sérieux. C'est ça la francophonie. On peut jouer, on peut chanter, on peut avoir de l'humour, mais aussi il faut parler des choses sérieuses quand il le faut, n'est-ce pas?
Absolument, tout à
Alors,
fait.
Alors, vous êtes actuellement dans une émission phare de la francophonie à l'antenne depuis 30 ans et cela fait partie de notre mission, c'est-à-dire d'aller au-delà des frontières afin de faire rayonner cette richesse, cette diversité de la francophonie canadienne. Depuis l'annonce de votre passage à notre antenne, les auditeurs, les auditrices semblent curieux de vous connaître et surtout, ils ont hâte d'apprendre un peu plus sur votre engagement en tant que francophone, femme d'affaires au sein de la World Trade Center de Winnipeg. Quel parcours, comment est née cette passion, votre engagement au sein de la francophonie?
Bien, ça vient certainement de mes parents, mes grands-parents aussi, tous nés au Manitoba, et puis qui ont toujours été là pour s'assurer que le français se maintient, s'épanouisse. Puis ça n'a pas toujours été facile. Alors moi, j'ai vu des difficultés aussi au niveau de la protection de cette langue, et puis c'est venu me chercher. C'est venu me chercher à quelque part, et puis c'est depuis toujours que c'est, ça fait partie de mon cœur. Et puis, aujourd'hui, je peux au moins la mettre en évidence dans d'autres secteurs comme l'économie. Alors, ça me fait plaisir.
Alors, vous savez que certains de mes amis dans l'équipe, on est allé fouiller un peu, si vous le permettez. Vous êtes né à moins de 30 minutes au sud de la route périphérique de Winnipeg, où se niche un des véritables bijoux du Manitoba rural, le charmant village de Saint-Pierre-Joly, avec son paysage des plus pittoresques sur les berges de la rivière aux rats. Saint-Pierre-Joly évoque la vie champêtre à son meilleur, avec son mélange de résidents chaleureux, un style de vie abordable, des attitudes progressives et un riche patrimoine.
Oui.
Incroyable. Alors, je pense que le milieu forge un petit peu notre esprit, notre identité pour aller de l'avant et être ce que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Notre environnement, que ce soit au niveau physique et aussi des personnes qui nous entourent, c'est certain que ça forge notre identité et nos valeurs.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'une dans votre entourage qui vous a influencé ou inspiré?
Absolument mes deux parents. Mon père, comme personne d'affaires, comme une personne docile mais qui a été obligée de se mettre debout pour la langue. Ma mère, parce qu'elle a pris des actions concrètes en mettant sur pied la première page en français pour les enfants dans notre hebdomadaire, le journal La Liberté, et qui l'a travaillé comme bénévole pendant plus de 25 ans. Et c'est des gens qui ont fait des actions dans le milieu de travail, comme papa avec sa pharmacie, son magasin qu'il gère dans un petit village. Et puis, maman, comme mère de famille de 7 enfants, en plus de se porter bénévole, et en plus, aujourd'hui, elle est toujours bénévole à 85 ans. Elle se rend à un milieu de travail pour les nouveaux immigrants qui ont besoin de choses. Et puis, elle aide à classer les vêtements.
Wow.
Et il va tous les matins. Et puis, c'est un sens d'appartenance, à faire une différence et tout ça. Alors, ça serait mes deux personnes, franchement, que je mettrais de l'avant.
Alors, vous avez touché la francophonie, les immigrants. On parlera tout à l'heure du profil, l'évolution de la francophonie. Mais si on devait parler un petit peu, comment est-ce que les francophones de Manitoba se définissent? Et vous-même, vous, en tant que francophone, parce que j'aime pas cette expression. Au Québec, on dit toujours les francophones hors Québec, ou encore on utilise des minorités dans une minorité. Je déteste ces appellations. Et vous, en tant que femme forte, femme d'affaires, francophone, comment est-ce que vous définissez votre identité au Manitoba?
Ben, je veux certainement pas être hors de quelque chose, d'être exclu. Alors, moi aussi, j'aime vraiment pas cette expression. Une autre expression que j'aime vraiment pas, c'est le Canada anglais. Et puis, pour moi, je ne vis pas à Winnipeg dans un Canada anglais. Je me réveille le matin, je me réveille en français, j'écoute la radio en français, je fais mes exercices en français, je me rends au travail en français, je parle avec ma famille en français. Ma vie est en français et je ne suis pas dans un Canada anglais. Et ça, je trouve ça vraiment difficile parce que ça démontre vraiment un manque de compréhension. Puis c'est une marque qu'on nous donne, un label qu'on nous donne qui n'est pas vrai. Et puis c'est difficile. Je ne sais pas où ça a commencé, cette affaire-là, d'être hors Québec ou bien d'être dans le Canada anglais, mais il faut que ça arrête parce que c'est pas vrai qu'on est dans un Canada anglais. Moi, je suis dans un Canada, point.
Et en français. Et d'ailleurs, votre fonction, je pense, décrit très bien votre ambition d'être francophone ou d'être bilingue, et vous n'osez pas dire que vous aimeriez que le Manitoba soit sur la carte mondiale.
Absolument. puis le Manitoba francophone encore plus.
Oui. Et comment avez-vous fait pour accéder à ce poste?
Bien, moi, j'ai été, pendant le début de ma carrière, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral. Puis quand j'étais là, il y avait un nouveau projet qui s'était présenté. Puis c'était le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. Il faut comprendre qu'à l'époque, on avait, en 1994, on a finalement eu la gestion de nos écoles françaises avec notre nouvelle vision scolaire franco-manitobaine. Puis à ce moment, ça a été le combat que j'ai vu mes parents. Puis moi, comme jeune maman, ça a été un combat pour la francophonie manitobaine d'avoir sa propre vision scolaire. Quand on l'a eu, là, on s'est dit, wow, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'est regardé comme communauté, puis on a vite identifié qu'un domaine dans lequel on n'avait vraiment pas payé beaucoup d'attention, mais c'est un domaine ultra important, c'était l'économie. Alors, il y a eu des leaders comme Raymond Poirier, entre autres, qui a commencer à mettre sur pied le conseil de développement des municipalités bilingues du Manitoba. Puis c'était un conseil pour faire rayonner puis faire puis rassembler la francophonie autour de l'économie, autour de se lancer en affaires, autour de la succession d'entreprises, autour de se donner une marque au niveau du tourisme francophone, des choses comme ça. Alors, c'était un projet qui m'avait été proposé quand je travaillais à DEO, à diversification de l'économie de l'Ouest, le ministère fédéral. Et puis, c'était moi l'agente. Ça donnait que c'était moi avec qui M. Poirier travaillait. Et puis, j'étais très emballée avec le projet. Je trouvais que ça faisait tellement du bon sens. Puis, j'aimais vraiment ça. Puis, je le poussais beaucoup dans le ministère pour qu'on le finance. Puis à un moment donné, M. Poirier m'a dit, « Hey, toi, tu devrais venir travailler au CEDEM. » Puis, dans ma tête de Mariette à l'époque, quand j'étais jeune maman, je venais d'avoir deux congés de maternité. J'étais au gouvernement fédéral. J'avais un job. Puis là, il me montrait quelque chose qui existait seulement sur papier. Donc, j'ai pas tout de suite sauté là-dessus. Mais il m'a convaincue et puis j'ai quitté le gouvernement. Puis je suis allée au CEDEM. Puis j'ai les premiers mois, c'est avec Monsieur Poirier. Puis là, ensuite, après 4-5 mois, j'ai pris la direction du CEDEM. Et puis, aucun regret. C'est à ce moment-là que j'ai commencé dans le développement économique bilingue parce qu'on était le premier organisme qui faisait tout en français et en anglais parce qu'on voulait que les anglophones comprennent ce qu'on faisait. Parce que c'est des municipalités comme à Saint-Pierre, par exemple, on voulait que les francophones et les anglophones de Saint-Pierre voient l'impact du CEDEM puis du développement économique, que le bilinguisme a rapporté au niveau économique. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai été là pendant 11 ans. J'ai adoré. C'est là où j'ai vu que le développement économique et la francophonie, tout ça, c'était ce que je voulais faire.
Oui, et c'est aussi une force, parce que quand on parle économie, les gens vous écoutent. On a tendance souvent, en tant que francophone partout au pays, de miser surtout sur la culture. J'ai rien contre ça. Non. Mais il faut aussi parler économie, parce que c'est... je dirais, très l'épine dorsale d'une nation, de faire avancer les choses au niveau de l'emploi, au niveau de l'immigration, au niveau des investissements, n'est-ce pas? et au niveau des capitaux et au niveau des échanges, parce que j'aimerais bien qu'on parle de cette expansion. C'est incroyable hein, de voir que le World Trade Center de Winnipeg qui a des idées d'étendre, madame, monsieur, son pouvoir, son travail dans le commerce, dans des pays pas seulement francophones, mais partout dans le monde. Alors, parlez-nous un petit peu de cette vision que vous avez pour faire rayonner justement le Manitoba au sein de la World Trade Center.
OK, bien. Après que quand j'étais au CEDEM, on a vite vu qu'on devait utiliser notre bilinguisme pour aller à l'extérieur du Manitoba. Parce que c'était bien, on avait établi le CEDEM, mais il fallait là utiliser puis ça allait plus loin. Donc, on a formé l'ANIM, l'Agence nationale internationale du Manitoba. Puis, c'était vraiment, ça avait trois mandats, c'était de favoriser des échanges commerciaux, l'immigration et l'investissement entre le Manitoba et les pays francophones, ou les marchés francophones, y inclut le Québec, donc les marchés francophones. Et puis ça, une des premières choses qu'on a faites, on est allé à Québec pour un gros forum économique international. Puis j'avais amené des francophones et des anglophones, on était chef de délégation. Puis tous les anglophones de chez nous disent « Hey, we should have this in Winnipeg, we should have this ». Puis on n'avait jamais eu de forum international économique au Manitoba. Alors là, tout le monde a dit « OK, on devrait ben, dire « Ah, oh, ben moi, je peux pas, je suis une chambre de commerce, moi je peux pas, je suis un secteur de manufacturier, moi je peux pas parce que je suis gouvernement. Hey, pourquoi vous autres, vous le faites pas ?» On était cinq innocents qui travaillaient à l'ANIM, on s'est dit « Ben voyons, c'est bien trop gros, on a jamais fait ça. Oui, mais vous nous avez amené à Québec. » Alors, on a créé des liens avec le groupe Québec international qui avait mis sur pied le forum là-bas durant les 400 ans de Québec. Et puis, on a décidé puis là, avec la France, qui a Madame Villain, ça c'est la sœur de Jean-Pierre Raffarin, qui a mis sur pied ce qu'on appelle Futuralia en France. C'est un forum économique. Alors, on a travaillé avec Futuralia et puis le groupe à Québec pour amener chez nous ce qu'on a appelé éventuellement Centralia, faire des affaires, des alliances au centre. Et puis, ça a été un énorme succès. Mais c'était pas facile. Parce qu'il fallait faire venir des gens de partout au monde, parce que c'était pas seulement que les marchés de la francophonie, c'était l'Inde, c'était la Chine, c'était les États-Unis, c'était l'Europe. Alors, c'était vraiment très, très gros comme projet, mais ça a été les francophones.
Et quand on parle du marché francophone, ça comprend aussi le continent africain, Madagascar, Haïti, l'île Maurice, avez-vous besoin d'aide?
Oui, on a besoin toujours de l'aide. Ça comprend partout les marchés francophones où on est apte à avoir, disons, du succès. Okay. Alors, il y en a qui sont plus faciles d'accès, d'autres, ça nous prend du monde. Mais comme ici, par exemple, la semaine passée, je sais que je vais du coq à l'âne, mais la semaine passée, il y a un groupe, une personne en particulier qui est originaire du Congo. Et non, vous dire qu'il n'a pas ça. Puis qui a fait venir des ambassadeurs chez nous. On a travaillé avec lui. Ça, c'est vraiment pour ouvrir les marchés africains. Mais lui, il s'y connaît, donc c'est la parfaite personne pour nous de travailler avec pour continuer ces liens-là, puis ouvrir, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et puis, alors, tout ça pour dire que oui, ça inclut vraiment les marchés où là, on a une volonté, puis des deux côtés. Il faut que les Manitobains découvrent et puis comprennent comment ça marche, puis qu'on ait des gens qui sont capables d'ouvrir des portes parce qu'ils connaissent les marchés davantage. Mais,
alors, il faut dire aussi que vous avez, je ne sais pas comment vous faites, pour aller dénicher les talents que vous avez pour vous entourer au sein de votre organisation, parce que quand je regarde le profil de tout le personnel que vous avez qui travaille avec vous, c'est incroyable. Et presque tous ces gens parlent bien le français, hein?
La langue de travail est le français. Il faut qu'ils parlent français. Parfois, c'est leur troisième langue. Parfois, c'est leur deuxième langue, et souvent, c'est leur première, mais pas exclusivement. Et puis, on a des gens d'un peu partout, et puis c'est la force, hein, c'est ça qui fait la force. C'est pour ça que l'immigration est tellement important pour le pays et pour la francophonie, parce que ça nous donne une belle diversité, ça nous donne les accents de partout, comme on a entendu la chanson tantôt. Et puis, c'est ça qui fait notre différence et notre force.
Vous connaissez Alberto Velasco Acosta?
Ah oui, oui, oui. Très, très bien.
Il est le directeur des services commerciaux chez vous.
Oui.
Et il dit, à mon avis, le multiculturalisme est l'une des raisons qui rend le Manitoba un endroit fantastique pour vivre, travailler et développer une entreprise. On ne s'ennuie jamais. On communique, travaille et croise des gens de différentes cultures quotidiennement. J'apprécie grandement la façon dont le multiculturalisme est imprégné dans la vie de tous les jours dans notre province. Et je pense que c'est grâce à vous, hein, parce que quand on est à la tête d'un organisme, c'est vous qui donnez le ton, finalement. Et on voit que les gens sont heureux de travailler chez vous. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver du personnel qualifié, francophone, au Manitoba?
Non, je trouve pas que c'est difficile, franchement. À date, là, j'ai été vraiment chanceuse de pouvoir attirer, parce que la plus grande compétence que je recherche, c'est le fit organisationnel, que ça correspond. Et puis, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il faut que ça soit des gens qui aient une passion de faire une différence avec les entreprises, puis d'avoir la passion de faire vivre la langue française. S'ils l'ont pas, je peux pas les embaucher. Je peux juste pas. Parce que ça va pas matcher. Ça va pas aller. Même s'ils ont des doctorats en économie ou, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils vont être capables de dénicher où sont les meilleurs service pour servir les entreprises, parce qu'on n'est pas des experts. Mais si on peut avoir du monde qui ont la passion de vouloir faire une différence, d'accompagner ces entreprises, et puis qu'ils ont la passion de la francophonie, puis qu'ils savent que c'est quelque chose à protéger, bien là, c'est du monde que je vais recommander puis que je vais considérer pour mieux travailler dans l'équipe.
Madame, Monsieur, je suis en compagnie avec Madame Mariette Muller. Elle est présidente directrice générale de la World Trade Center de Winnipeg au Manitoba. Une heure de décalage. C'est un très beau pays à visiter, surtout l'été, parce que je sais, nous avons eu la chance de travailler, enfin, un de mes collègues, DJ Devora, qui vous a mis en onde, a eu le bonheur de travailler pendant un an pour le gouvernement du Manitoba. Il y a plusieurs années de cela, il en garde une excellente expérience, mais il avoue que le froid peut être très, très, très rigoureux. Le thermomètre,
oui,
madame, monsieur, oui, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 30, moins 40 des fois. Comment faites-vous pour garder au chaud et toujours positif dans le froid?
Bien, premièrement, c'est un froid sec. Je sais que les gens rient quand ils entendent ça, mais c'est vrai. C'est vraiment plus sec et c'est beaucoup moins froid que si c'était un froid de moins 30 humide. Mmh. L'autre chose, on est très bien équipés. On a des sièges chauffants dans nos autos, on a des volants chauffants, on est le cœur est chaud, puis ça réchauffe le restant du corps.
Oui. Maintenant, on va parler un petit peu sur le dossier de l'immigration, l'évolution de la francophonie. Selon le recensement de 2006, la population de langue maternelle française du Manitoba représentait un peu moins de 4% de la population totale de la province. Selon les derniers chiffres de Statistique Canada, 42 505 personnes parlaient le français à la maison en 2016. C'est 420 de plus qu'en 2011. Ça augmente quand même un peu.
Oui.
Mais la proportion de Manitobains utilisant la langue de Molière chez eux diminue légèrement par rapport à 2011. Selon un reportage de Radio-Canada, au mois d'août de l'année dernière, on nous indique que plusieurs régions du pays où les francophones sont minoritaires, le Manitoba compte sur l'immigration africaine pour atténuer l'effet de la baisse du nombre de francophones de souche. Parlez-nous un peu de cette vision personnelle sur l'avenir du fait français et des francophones du Manitoba. Comment voyez-vous cette communauté francophone d'ici 20 ou 30 ans?
Moi, premièrement, je suis très optimiste. De façon générale, mais sur ce sujet-là en particulier. Aussi parce que quand je pense, comme moi, comme jeune enfant, je suis allée à l'école qui était une école anglaise à Saint-Pierre, parce qu'on n'avait pas le droit encore d'école française. Puis mon petit frère est allé à l'école française. Puis ensuite, mes enfants sont allés non seulement à une école française, mais à une division scolaire franco-méthodienne. En même temps, les écoles d'immersion augmentent, parce que les anglophones voient que c'est utile, parce qu'on est devenu mondial. Puis le français, c'est pas juste une langue qui est parlée comme dans un pays comme l'Ukrainien ou l'Italien. C'est vraiment parlé dans 55 pays au monde. Je veux dire, ça vaut la peine d'apprendre le français. Et puis, dernièrement, on démontre aussi que le français est la langue qu'on apprend le plus au niveau mondial après le chinois, après l'anglais puis le chinois. Ça vient de dépasser l'espagnol, qui est nouveau, ça. C'est un nouveau phénomène. Puis même quand j'étais en Chine, j'étais dans une réunion, puis il y avait un genre de tableau, un flip chart, puis c'était écrit « Je m'appelle, tata ». Puis j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez le français? » « Oh non, on a beaucoup de Chinois qui apprennent le français. » « Hein, vraiment? Les Chinois? » Ben, ils apprennent l'anglais parce que c'est nécessaire, mais ils apprennent le français parce que c'est prestigieux. Alors, j'ai dit, oh, bon, je vais l'utiliser celle-là. Parce que je me suis dit, si les Chinois commencent à parler français, là, on va être correct. Oui.
D'ailleurs, dans les alliances françaises à Toronto et à Vancouver, on voit cet intérêt des familles chinoises d'envoyer leurs enfants pour apprendre le français dans les alliances françaises. C'est incroyable.
Oui, c'est ça. Alors, pour moi, on est bien parti. On sait aussi que les Chinois sont en train d'investir beaucoup, beaucoup en Afrique, puis l'Afrique francophone compris. Et puis, bon, pas bon, eux autres, ils le font pour des raisons économiques, je suppose, pour la Chine, pour eux-mêmes. Mais en même temps, ils vont être exposés à la langue. Ils vont vouloir apprendre la langue pour des raisons économiques aussi, pas seulement l'anglais. Donc, je pense qu'au niveau de la langue française, au niveau mondial, puis le Manitoba va pas être différent dans le sens que on voit déjà qu'il y a une augmentation d'intérêt. Puis la grosse affaire aussi pour moi, le thermomètre, c'est beaucoup sur la façon qu'on nous traite. Moi, j'ai déjà été traitée comme testique, white ou je sais pas quoi. Je comprenais même pas ce qu'on voulait dire par ça. Et puis c'était de pas parler français devant des gens. On n'entendrait pas ça, c'est inacceptable. C'est comme d'autres choses qui sont devenues politiquement inacceptables. Bon ben ça. Ça aussi. Ça veut dire aussi beaucoup. Ça veut dire qu'on fait du chemin, qu'on prend notre place, qu'on a beaucoup plus de respect peut-être qu'il y avait avant.
Alors, suivant de près les initiatives de votre belle province, je vois que les services en français au Manitoba sont protégés par une loi provinciale, un peu comme en Ontario. Je vois aussi dans ma boule de cristal que le pluralisme linguistique et culturel est un élément incontournable de la nouvelle réalité. Et en décembre 2003, la Société de la francophonie manitobaine a mis sur pied l'accueil francophone afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants francophones au Manitoba. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants du Maghreb et de l'Afrique surtout qui décident d'aller au Manitoba pour parfaire leur éducation. Est-ce que ces jeunes restent? Est-ce qu'il y a du travail pour ces jeunes ou bien ils viennent juste pour étudier et puis ils repartent dans leur pays?
On a un peu des deux, mais on a de plus en plus qui restent. Parce qu'on est la seule université francophone de l'Ouest canadien, premièrement. Alors, on peut attirer des gens juste là-dessus. Alors, puis c'est bon quand ils viennent à l'université parce que ils vont étudier en français, mais ils vont apprendre l'anglais. L'anglais, ça s'attrape chez nous, donc ils vont l'apprendre. Et puis, ensuite, ils risquent d'avoir du bon travail ici chez nous parce qu'ils vont avoir assez d'anglais pour quand même servir la clientèle anglophone, mais ils vont avoir le français qui est un atout pour bien des places. Alors, vous avez mentionné l'accueil. L'accueil francophone, ça a été une des meilleures décisions qu'on a prises comme communauté. Parce que ce que ça fait, l'accueil, c'est que ça facilite l'intégration. Parce que l'immigration, ça se passe, mais l'intégration, c'est là que ça va faire la différence entre rester ou partir. La différence entre rester ici et pas avoir une bonne vie. Donc, c'est vraiment, vraiment un rôle important que l'accueil joue. Pour nous, là, ça fait la grosse différence.
On pourrait passer une éternité à discuter avec vous. C'est tellement enrichissant de savoir un petit peu l'évolution de la francophonie chez vous, mais aussi votre engagement personnel. Nous sommes en période électorale en Ontario. Est-ce que vous diriez que les politiciens, les candidats qui se lancent dans la politique devraient aussi s'informer et travailler et même apprendre le français pour mieux saisir les enjeux des francophones du pays?
Moi, je pense que c'est comme n'importe quoi d'autre. Les politiciens devraient absolument être très au courant de cette dualité linguistique. On a dualité linguistique, c'est deux langues. Il n'y en a pas 80. On n'a pas besoin d'apprendre 80. Il y en a juste deux. Et puis quand on pense à l'Europe et ailleurs, où c'est tellement normal d'avoir deux langues, on peut parler de n'importe où ailleurs, sauf en Amérique du Nord, franchement. Et puis, je pense que c'est une obligation au moins de bien connaître la communauté francophone ou la francophonie. Et puis, deuxièmement, de parler les deux langues, oui, ça serait vraiment un atout, parce que quand on parle la langue, on s'ouvre à l'autre beaucoup plus que juste de connaître la personne, on va vraiment connaître davantage derrière ce qui est la personne. Puis pour moi, c'est clé. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça semble pas être une thématique qui ressort beaucoup. On n'entend pas vraiment ce que les politiciens pensent. Ça semble pas être mis en avant-plan, ni au gouvernement d'Ontario, Manitobain, ou même Canadien, des fois. Mmh. Je trouve qu'on a pris un recul là-dessus. On parle pas beaucoup de cette valeur canadienne qui s'appelle la dualité linguistique. Oui. On a beaucoup comme un moteur incontournable et une valeur incontournable. Puis je pense qu'il faut faire attention à ça parce que c'est devenu même, on peut la défendre, comme vous disiez tantôt, on peut la défendre au-delà du culturel. On peut la défendre, cette valeur-là, au niveau économique, de plus en plus parce qu'on est mondialisé. Puis je pense que c'est une faiblesse dans toute la machine politique à tous les niveaux, municipal, provincial et fédéral.
Marianne Muller, vous remercierez toute votre équipe. Ils ont été vraiment gentils pour faciliter cet entretien aujourd'hui. C'est tout le temps qu'il nous reste. Marianne Muller, Madame, Monsieur, présidente directrice générale de la World Trade Center de Winnipeg au Manitoba. On vous applaudit bien fort. Voilà. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine et bon courage, à bon succès dans vos entreprises.
Merci, au revoir. Merci. Au revoir.
Et oui, madame, monsieur, voilà tout un entretien avec Marietta Muller, présidente directrice générale de la World Trade Center. L'émission sera en ligne dès lundi ou mardi au plus tard, à ne pas rater. Et n'oubliez pas que vous devez avoir votre passeport aujourd'hui pour la dernière journée au Pavillon d'Afrique Festival Karasoga, 32e édition aujourd'hui avec notre amie Olga Lambert qui sera des nôtres à 12h30, 12h35 environ. Et puis le festival Inside Out se poursuit, beaucoup d'événements dans la région de Toronto à surveiller, allez sur le site pour tout savoir. Et aussi je vais vous parler des rendez-vous de nos partenaires et de nos amis de la francophonie de la région de Toronto, des rendez-vous à ne pas rater, entre autres de la Société d'histoire de Toronto.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Imagine you're walking along a tropical beach after an exciting day exploring one of the world's most beautiful rainforests. Well, you can turn this dream into a reality. CIUT 89.5 FM is giving away a trip for two to Capos, Costa Rica during our Sound of Your City Spring Drive. All you need to do is become a member to enter in the draw. Stay tuned or visit www.ciut.fm for more details. CIUT 89.5, Toronto.
Pauline Blaise.
À la une, le premier tour de la présidentielle en Colombie. C'est la première fois qu'elle est organisée depuis la signature de l'accord de paix avec les FARC. On fera le point sur les candidats et leurs chances de l'emporter. Kim Jong-un et Moon Jae-in, les dirigeants nord et sud-coréens, se sont de nouveau rencontrés un mois après leur première réunion. Et cette fois, le sommet n'avait pas été annoncé. La réforme agraire fait des mécontents en Afrique du Sud. Le roi Zoulou, Goodwill Zwelithini, est vent debout contre le projet de redistribution des terres. Au sommaire également, la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions de football. La finale de la Ligue des Champions de handball, ce sera ce dimanche. Elle opposera Montpellier et Nantes. Ce sera une première depuis que la paix a été conclue avec la guérilla des FARC. Les Colombiens voteront pour le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Un vote qui devrait se faire dans le calme. Le LN, la dernière guérilla active du pays, observe un cessez-le-feu pour l'occasion. Mais quels sont les candidats en lice pour succéder à Juan Manuel Santos? Quels sont les favoris? Réponse avec Marie-Ève de Teuf.
Les sondages donnent en tête Ivan Duque, un sénateur de 41 ans, au look moderne et aux idées très conservatrices. Inconnu il y a encore un an, Duque est le poulain de l'ancien président Alvaro Uribe, qui incarne la droite dure, celle qui s'est opposée au processus de paix avec la guérilla. Le candidat indépendant de gauche, Gustavo Petro, arrive lui en deuxième, la vraie surprise de cette campagne. Petro, qui a été guérillero dans sa jeunesse, sénateur et maire de Bogota, n'est pas un inconnu, lui. Mais personne ne croyait à ses chances il y a encore 6 mois. Petro parle justice sociale et environnement, un sujet très nouveau ici. La polarisation de l'électorat entre droite dure et gauche radicale joue contre les autres candidats qui ont tous de l'expérience et qui avaient tous leur chance. C'est le cas de Sergio Fajardo, un professeur universitaire qui a été maire de Medellín et gouverneur. C'est le cas à droite de Germán Vargas Lleras, un vieux routier de la politique. Et c'est le cas du libéral Humberto de la Calle, qui a été négociateur de l'accord de paix avec la guérilla et qui devrait faire un score ridicule. C'est aussi une surprise. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Mais, Paris, mais Paris. Mais, Paris, mais Paris. Ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau força enchaîné à sa plume. Et piochant les passions d'un rossignol titan. Capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Et je te prends.
Mai 68, 50 ans. 50 ans après, cette période tourmentée fascine toujours. Et cette exposition à Paris le prouve. Selon un récent sondage, 70% des Français estiment que mai 68 a eu un impact plutôt positif sur la société française. Mais quel rôle ont joué les médias lors de la crise de mai 1968 en France ? En mai 1968, la France se trouve plongée dans une crise politique qui fait vaciller le pouvoir exécutif. Pendant près d'un mois, les rues de Paris sont le théâtre de manifestations violentes, tandis que le pays est paralysé par un mouvement de grève générale à partir du 17 mai. Dans ce contexte, les Français cherchent à s'informer. Pour ce faire, ils disposent de la presse papier, mais aussi de la télévision et des radios. Quel rôle jouent ces outils d'information pendant la crise ? Après les grèves et les purges de l'ORTF, racontées par Michel Drucker récemment à France Inter, France Inter continue son exploration médiatique de l'année 1968. Sonia Devilliers anime cette séquence avec ses invités.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
Oui, oui, en direct.
Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus les gaz lacrymogènes.
Reculez. 9h40 sur France Inter, poursuite de notre route 68. Après les grèves et les purges de l'ORTF racontées hier par Michel Drucker, l'Instant M continue son exploration médiatique de l'année 68. Plus de télévision donc. La France a passé le printemps l'oreille collée à son transistor. Cette révolte est indissociable d'une révolution, celle du média radio. Et ce sont les antennes privées, RTL et Europe 1, qui ont jour et nuit couvert le terrain pour une toute jeune génération de reporters. Le quartier latin, ce fut un peu leur guerre.
L'Instant M.
Vive la solidarité des travailleurs,
Sonia Devilliers,
des étudiants et des enseignants
sur France Inter.
68, c'est l'occasion d'une foule de retrouvailles au studio 511 de la Maison de la Radio. Alors hier, fallait voir pendant que Drucker était au micro, son vieux copain du service des sports de l'ORTF, Jacques Vendroux, en personne, qui sautillait dans la régie, les deux qui se sont tombés dans les bras dans le couloir. Et aujourd'hui, nous réunissons Europe 1 en 68. Bonjour Gilles Schneider.
Bonjour Sonia.
Monsieur le directeur, devrais-je dire. Oh. Bah oui, puisque vous fûtes directeur de cette maison. Et bonjour à vous, RTL en 1968. C'est le retour de Patrick Pénaud au micro de France Inter. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Voilà, et sur Twitter, on me demande déjà si vous allez révéler l'identité de Monsieur X.
Faut pas y compter.
Faut pas y compter. Voilà, vous avez entendu sur Twitter, faut pas y compter. Patrick Pénaud, il va rien dire. Patrick Pénaud, Gilles Schneider, vous aviez quel âge en 68 ?
Moi, j'avais
Gilles
25
Schneider.
Ans.
Voilà.
Oui,
Patrick Pénaud,
à peu près 24, je crois.
24, ouais. Voilà, vous étiez tous les deux très jeunes. Il faut raconter quand même, parce que c'est un moment assez incroyable dans un service de reportage.
Ce qui est important, c'est qu'on
Patrick
était
Pénaud.
À peine plus âgés que les manifestants.
Et ouais. Oui, exactement, on va en parler. Est-ce qu'on vous a soupçonné justement de connivence avec les manifestants,
bien
tout
sûr,
jeune que vous étiez ? Oui, bien sûr.
On nous a appelé Radio Barricade.
Ou Radio Émeute.
C'est Debré, je crois. Hein.
Oui, Radio Émeute.
Bonjour Monsieur Radio Émeute et bonjour Monsieur Radio Barricade. Il faut quand même raconter que les barons du reportage de vos deux stations étaient en voyage officiel à ce moment-là.
Julien Besançon, Europe 1, était avec Georges Pompidou en Afghanistan.
Très bien, très ouais, bien. Voilà. Et puis le reste du contingent était avec De Gaulle en Roumanie.
Ouais.
Voilà, donc ça a été l'occasion pour les jeunes de faire leurs armes. Décrivez-nous, Gilles Schneider, en fait, ce dispositif qui s'est mis en place de manière tout à fait spontanée.
Alors, tout commence le 3 mai. Mm-hmm. Hein. La première manifestation du 3 mai, on la couvre, les radios privées ont le réflexe déjà à ce moment-là, depuis la guerre d'Algérie, de faire des flashs spéciaux quand il y a un événement grave. Et donc, le 3 mai, ce sont les premiers flashs spéciaux et antennes ouvertes au reportage en direct, dès le 3 mai. Mais plus ça va, plus ça prend de l'ampleur.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, effectivement, il y avait réparti dans tout le quartier latin énormément de reporters.
Alors on va les citer justement.
Ouais,
c'est
y avait,
Fernand
ouais.
Choiseul, ouais. Bernard Lalanne, François Jouffa, Alain Cancès,
Pierre Lavigne.
Voilà pour Europe 1. Vous Patrick Pénaud, vous étiez
mon alter ego Christian Brincourt.
Voilà ouais. C'est
voilà.
Ça.
Et puis après il y a tout le service sportif qui nous a réunis. Et c'est pas très étonnant parce que moi-même quand j'étais en train de commenter oui. Ces manifestations, au fond j'avais un peu l'impression de commenter un match de foot, même si je n'y connais rien.
Non, en match de foot ou en politique, mon cher ?
Non, en match de foot.
Et d'ailleurs, oui. Fernand Choiseul, par exemple, oui. Qui était le patron des sports à l'époque, était, à mon avis, l'un des meilleurs d'entre
c'est
nous.
C'est vrai ?
Oui, parce qu'il avait cette habitude de décrire une situation en direct,
oui.
Sans papier. Après nous,
et de faire
savez,
vivre l'action justement
vivre l'action.
Sans l'image.
Et c'est une première pour nous parce oui. Que vous êtes dans l'action, vous mm-hmm. Courez en mm-hmm. Même temps, vous êtes entre les policiers et les manifestants. Patrick et moi, un jour, on avait nos deux voitures. Il y a une photo d'ailleurs dans la presse qui était parue. Ouais. Nos deux voitures en travers entre les policiers c'était et les manifestants.
Complètement bloquées.
Complètement bloquées.
Sur le carrefour Saint-Germain.
Voilà. Et tu étais sur le toit de ta voiture. Moi, j'étais, je ne sais pas où. Enfin bref, c'était un peu l'affolement là.
Patrick Pénaud, est-ce que vous pourriez nous décrire le matériel du reporter, justement, en 1968
Le Nagra, d'abord. Oui. Hein, Nagra, 12 kilos.
12 kilos
sur l'épaule. Mais qui avait un avantage, c'est que dans une manif, ou en les flics chargeaient, c'était un outil assez, un coup de nagrasse, ça permettait de,
ah, c'est ça, c'était aussi,
ça permettait de faire de
la
place.
De se défendre.
Ouais, ça protège aussi, ça protège. Hein.
Et puis après, on a eu, très vite des radiotéléphones, enfin des radioémetteurs, qui étaient beaucoup plus petits que le Nagra, et alors qui permettaient, c'était d'une souplesse extraordinaire, et ça permettait de commenter alors en direct. Le Nagra, c'était un enregistreur, hein, donc c'est pas. Tandis qu'avec les radioémetteurs, on était complètement libre, et on pouvait être à quelques dizaines, 50, même 50, 100 mètres de la voiture émettrice, et on était complètement plongé au cœur de l'action. Et alors après, puisqu'on était radio barricade ou radio émeute, fragile, le gouvernement nous a interdit.
Mais attendez, on va écouter ça parce qu'on en a une trace. C'était sur France Inter. Les fréquences coupées sont coupées à partir du 23 mai parce que qui dit radio téléphone dit téléphone. Donc on a coupé les lignes téléphoniques.
Vous êtes à l'écoute de France Inter, vous savez que des événements graves se produisent en ce moment au quartier latin. Je demande d'ailleurs à tous nos reporters qui sont sur place de nous appeler. Vous le savez, nous ne pouvons pas travailler avec nos moyens normaux. Toutes les stations de radio ont eu toutes leurs lignes à haute fréquence et lignes radiotéléphoniques coupées. Nous devons donc intervenir avec des téléphones qui se trouvent chez les particuliers ou dans les cafés. C'est ce qui explique que nos reporters ont quelquefois du mal à nous atteindre.
C'est quand même un moment de radio absolument extraordinaire, Gilles Schneider. Officiellement, on coupe les fréquences téléphoniques qui vous permettaient de transmettre vos pamiers pour pouvoir donner des fréquences à la police.
Alors ça s'est passé sur Europe, par exemple, ça s'est passé de la façon suivante. Tout d'un coup, sur les lignes conversation, toutes les voitures ont entendu la voix de notre directeur général, Maurice Siegel. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors voiture numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque fois, il nous posait la question, en nous donnant l'information, il nous a dit, voilà, Yves Guénal, ministre des Postes et Télécommunications, vient de m'appeler, dans quelques minutes, nous n'aurons plus de ligne de direct. Donc vous avez le choix, ou bien vous rentrez à la rédaction, et je le comprendrai très bien, ou bien vous continuez, vous vous débrouillez avec des téléphones chez des particuliers.
Alors c'est ça qui est
absolument
dingue.
Alors évidemment, à l'unanimité,
vous êtes resté.
On continue, bah oui, bien sûr.
Vous êtes resté, donc ça a été deux pinces crocodiles reliées à vos magnétophones pour pouvoir transmettre. Donc vous êtes rentré, les gens vous ouvraient leur porte.
Ah, mais c'était extraordinaire, on nous ouvrait la porte. Parfois il y avait des maîtresses de maison pendant qu'on passait notre papier qui nous faisaient cuire un steak frites. Moi j'ai eu une histoire extraordinaire. Boulevard Saint-Michel, j'étais dans un appartement un jour de manifestation assez dure. Et c'était un couple, lui était médecin et elle était enceinte. Et tout d'un coup, elle dit à son mari, je crois qu'il faut qu'on aille à la clinique.
Ah.
Et moi, j'étais là en train de passer mon
papier sur le repas.
Et pour corser le tout, dans l'escalier, se battaient des manifestants et des CRS.
Est-ce que vous avez fait une place à la femme enceinte à coup de Nagra pour calmer les manifestants et qu'elle puisse rejoindre la maternité?
Je me suis mis devant, elle derrière moi et son mari fermaient la marche et je hurlais, femme enceinte va accoucher. Alors c'était incroyable parce que on passait entre les belligérants qui cessaient à ce moment-là
se battre.
Nous passions et ils reprenaient de plus belle une fois qu'on était passé.
Voilà. Alors, on le dit évidemment, très rapidement, l'ORTF bascule dans la grève. Mais quel était le degré de liberté, on va dire de liberté éditoriale, de liberté politique d'RTL et d'Europe 1, qui était quand même sous contrôle gaulliste? On peut pas.
Mais écoutez,
pas
moi, je peux parler pour RTL. À RTL, on avait un patron qui s'appelait Jean Farand, qui venait de Paris Match, hein, c'est un homme de Prouveau. Jean Farand était un gaulliste de gauche. Et je crois qu'il a été saisi par le romantisme révolutionnaire de la situation, tant et si bien que pendant plusieurs semaines de mai, il nous a fichu une paire royale à nous, les reporters, et nous avions antenne ouverte tous les soirs.
Liberté absolument incroyable.
Une liberté totale.
Absolument incroyable.
Et, alors, c'était pas sans sans cynisme non plus son attitude, parce que il faut savoir ce qu'était RTL à l'époque. C'est l'héritière de la vieille Radio Luxembourg. Moi, quand je suis entré à RTL, il y avait encore la famille du raton. Et Jean Farran a sans doute vu dans les événements de 68 une façon
de moderniser
et de rajeunir son auditoire. Et il a, le coup a réussi. Hein.
Et en même temps, ça a créé une espèce de grande... Alors oui, je suis d'accord avec vous, Patrick Pénaud. Il y a eu une forme d'opportunisme aussi. Et en même temps, il y a eu une grande solidarité entre RTL et Europe 1, qui restera vraiment dans l'histoire de ces deux stations. Une grande solidarité. Vous avez fait antenne commune. Vous avez fait une nuit d'antenne commune RTL et Europe 1.
Comme on nous a coupé les radiotéléphones. Ouais. Et vous savez, à ce moment-là, on disait de Cohn-Bendit, dans les manifestations, les manifestants scandaient « Nous sommes tous des juifs allemands ». Et nous, c'est une façon de dire « Nous sommes tous des radio-émeutes ».
Des radio-barricades.
Et donc, on a fait antenne commune ce soir-là, si mes souvenirs sont bons, entre 18h et minuit.
Oui, ça avait été précédé. Beaucoup de gens l'ont oublié. Ça avait été précédé fin avril par une conférence de presse commune entre les patrons de RTL et ceux d'Europe 1 qui annonçait déjà qu'il y aurait des programmes, qu'il y aurait des programmes communs aux deux périphériques. Et au fond, pressé par les événements, ce qui s'est passé ce 8 mai, ça n'a été que la concrétisation de cette collaboration, qui ne s'est pas poursuivie après 1968. Hein, heureusement, on a continué à se tirer la bourre.
D'ailleurs, à minuit une, ce soir-là, chacun a repris ses billes et la concurrence...
Je me suis demandé, tous les deux, puisqu'après vous avez eu une très très belle et très longue carrière de radio, ce que ça avait changé à la radio. On est dans une période aujourd'hui, vous le savez, où c'est même devenu un lieu commun journalistique, on parle de libération de la parole. Mais finalement, est-ce qu'en 68, vous n'avez pas assisté à ça à la radio, en direct, la libération de la parole. Une autre façon de mettre en scène la parole sur les ondes radiophoniques, Gilles Schneider.
C'était même la libération de la parole, c'était le thème de départ de mai 68. Parce que ce soit mai 68, c'est pas seulement en France, c'est à Mexico, c'est à Berlin, c'est à Berkeley, et je dirais même, je l'ai retrouvé un peu, quelques mois plus tard, la même chose en Tchécoslovaquie, avec le socialisme à visage humain, et cette libéralisation.
Quelques mois plus tard, c'est-à-dire que vous repartez en reportage après 68, vous repartez
après,
directement en Tchécoslovaquie.
C'est la même chose. C'est une société qui était figée depuis l'avant-guerre et qui tout d'un coup veut enlever ce corset.
Et médiatiquement, ça veut dire que pour la première fois, on entend à la radio les gens, tout simplement.
On est dans la rue.
On était de plein pied avec, non pas avec les manifestants, mais avec ce qui se passait. Enfin, à tel point même que parfois on a été, comment dirais-je, pratiquement intoxiqué parce qu'on entendait...
Intoxiqué psychologiquement ou physiquement par les gaz lacrymogènes.
Je vais expliquer une anecdote. Début juin, moi je suis une manif de jeunes gaullistes du Trocadéro au Champ de Mars. On m'appelle une première fois dans le journal et je dis voilà, je passe devant l'école militaire où flotte le drapeau rouge. Le présentateur du journal ne relève pas. Bon. 20 minutes plus tard, fin du journal, 19h30, on m'appelle à nouveau. Et je dis, voilà, la manifestation des jeunes gaullistes vient de se terminer. Et Joséphine Baker vient de chanter l'Internationale sur le Champ de Mars. C'était bien sûr la Marseillaise. Ça m'a valu... c'était des vrais lapsus. Hein,
c'était des vrais lapsus entre l'Internationale et la Marseillaise.
Ça m'a valu 2 jours de repos et 4 jours de repos supplémentaires pour toute la rédaction.
Merci beaucoup à tous les deux.
C'était Gilles Schneider. C'était la radio à Europe de Salut les copains. Donc on devait être à côté des jeunes aussi.
Merci beaucoup à tous les deux. Patrick Pénaud, c'est un bonheur de vous entendre à nouveau sur France Inter. Et Gilles Schneider, notre ancien directeur. Bon vent à tous les deux. Demain, on continue notre exploration médiatique de 68. Ce sera 68 au Nouvel Observateur. Vous allez voir, c'était pas mal non plus.
Lisez-moi quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
À quoi donc a servi mai 68?
a rejeté le modèle patriarcal, l'hypocrisie sur la sexualité, l'autorité. Les revendications des étudiants, des ouvriers et des familles convergeaient vers un même désir d'émancipation. Cette société libérée, certains la rejettent aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, quelques jours avant son élection à la présidentielle en 2007, accusait mai 68 d'avoir détruit les valeurs et la hiérarchie créant un tollé général. Serait-il interdit d'interdire mai 68 ? 50 ans après, que reste-t-il de mai 68 pour les jeunes, lycéens, collégiens ? Reportage William Delesseux de Radio France Internationale.
Lycée Claude Bernard, dans le 16e arrondissement de Paris. Ici, le 10 mai 1968, l'établissement est bloqué et il entraînera d'autres lycées dans le quartier. 50 ans après, le lieu n'a quasiment pas changé. Pour les élèves d'aujourd'hui, c'est l'heure de la fin des cours. Mai 68 est loin, très loin dans les esprits.
C'est la guerre, mai 68. Non, c'est 48.
Ah, 45. C'est 45. Non, je sais pas.
Yassim Belkeda est en 3e. Son prof d'histoire n'a jamais évoqué mai 68.
Il y a plein de choses qui sont dans le programme qu'on n'apprend pas. Donc je pense pas qu'ils ne nous ont pas appris en tout cas.
Certains en ont quand même entendu parler.
Ils ont fait plein de grèves. Parce que le régime politique, je crois, il était pas assez pour les jeunes, je crois, comme ça.
C'est un mouvement très important dans l'histoire de la 5e République.
Maxime Porteos, en classe de première, a son avis sur le sujet.
La philosophie qu'il y avait dans mai 68, elle est complètement dépassée parce que finalement, aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire des actions de blocage pour faire évoluer la société.
Comment vous avez appris que ça existait cette période ? C'était en cours ? C'était où ?
C'était par les médias, à la radio, et parce que je m'intéresse pas mal à la politique, j'ai pu en apprendre plus sur ce sujet.
Mais la période serait comme tombée dans l'oubli. Les enseignants doivent normalement l'aborder en classe de 3e. Direction maintenant une exposition près de la gare de Lyon. Un bar, le Grand Contrôle, accueille des conférences et des ateliers sur mai 68. Parmi les affiches, les slogans d'époque ou encore les sociologues nostalgiques Laura Eisenstein. La jeune fille, étudiante, est venue visiter un véritable musée.
Oui, après je trouve que c'est un musée vivant. C'est intéressant de réactualiser cette culture-là. Et c'est important pour la mémoire.
L'écrivain Raphaël Glucksmann organise le cycle de conférences. Pour lui, les slogans de mai 68 sont toujours d'actualité, même pour les plus jeunes, comme « Nous sommes tous des juifs allemands ».
Il y avait une forme de quête d'un « nous », d'un collectif qui ne soit pas exclusif de l'autre, qui ne se constitue pas en excluant l'autre, mais qui soit justement un « nous » cosmopolite, inclusif. Et ça, c'est à mon avis une quête que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre. Après, qu'ils connaissent ou pas la période 68, honnêtement, on s'en moque. Il y a une interrogation extrêmement profonde sur la marche naturelle et normale de la société. Ce questionnement-là, à travers les slogans de 68 qui sont extrêmement inventifs, ce questionnement-là, il est très intéressant aujourd'hui.
Un questionnement loin d'être universel. Un jeune sur trois, de 18 à 34 ans, ne sait pas vraiment en quoi consiste mai 68. Un sur quatre n'en a jamais entendu parler.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée. Les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets, grève illimitée. Grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début, on marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, que ses poings nus.
Et oui, mesdames, messieurs, dans un instant, nous serons cœur de Pavillon d'Afrique au festival le plus grand, hein, le deuxième au Canada ou au monde? Je sais pas. 32e édition. À ne pas rater. Quelques bons plans de nos partenaires. Chaque vendredi, le Musée Royal de l'Ontario vous invite à la soirée Technomode avec les meilleurs artistes et DJ, des forfaits pour les groupes. Allez-y, allez, faites vite. Allez sur le site du Musée Royal de l'Ontario pour avoir les détails. Chaque vendredi, hein, d'ici jusqu'à la fin du mois de juin, je pense. Du 24 au 3 juin, voilà, c'est déjà commencé, le festival de films Gay Inside Out à Toronto. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner vos places. Allez sur le site www.insideout.ca. Vous aurez tous les renseignements de la programmation du festival. Jusqu'au 27 mai, donc aujourd'hui, dernière chance, Ciné Franco et le Labo vous invitent à assister à une programmation de court-métrage francophone dans le cadre des Portes Ouvertes, Toronto. Cela se déroule au Collège Boréal. Aujourd'hui, dernière chance et merci à notre ami qui nous envoyait un petit message pour nous rappeler cet événement. C'est bien sûr Madame Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Du 1er au 8 juin prochain, la troupe des Indisciplinés de Toronto n'entend pas se ranger. Dans son nouveau spectacle intitulé « Scène de ménage », la troupe présentera non pas une, mais deux courtes comédies en un acte. « La cigale chez les fourmis » d'Eugène Labiche, suivi de « Feu la mer » de Madame de Georges Feydeau. Et je vous rappelle que du vendredi 1er juin et samedi 2 juin à 19h et jeudi 7 juin et vendredi 8 juin à 19h30 et dimanche 3 juin à 14h à l'auditorium de l'école Toronto Ouest 330 avenue Lansdowne à deux pas de l'intersection Collège et Lansdowne. Allez sur le site www.lesindisciplinesdetoronto.ca pour tout savoir. Le 3 juin prochain, la Société d'histoire de Toronto vous invite à la balade dans l'histoire le long des rives de la rivière Humber. Départ 14h le 3 juin au stationnement du parc Étienne Brûlé. À partir du métro Old Mill, marchez en direction du restaurant Old Mill et traversez le vieux pont jusqu'au stationnement du parc. Un jeu questionnaire sera distribué au départ. Suivez vos guides, Gérald Pézé et Monsieur Gérard Poupé. Vous pouvez téléphoner à Gérald, il est au 905-903-6722 ou encore aller sur le site www.shttoronto.wordpress.com pour Société d'Histoire de Toronto. Et le 9 juin, concert de fin d'année, les Voix du Cœur présentent dans tous les sens le titre du spectacle. Samedi 9 juin, ne pas rater à 15h et à 20h à la salle Isabelle Bader, campus de l'Université de Toronto, réservé dès maintenant en ligne. Allez sur le site www.lesvoixducœur.com pour tout savoir. 9 juin, concert de fin d'année, les Voix du Cœur.
CIUT-FM continues to be the sound of your city. Of course, we can't do it without your generous support. Our spring membership drive starts on June 4th, but donate before then and you'll be eligible for numerous early bird prizes, including a bike courtesy of Urbane Cyclists, tickets to see Mavis Staples live at Massey Hall, and more. Visit www.ciut.fm to donate. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Allô?
Oui, bonjour madame.
Oui?
Oui, mon nom est Harry Shack des Grandes Gueules. Ça va bien aujourd'hui?
Pardon?
Pardon?
Vous êtes Harry Shack des Grandes Gueules?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, j'appelle pour l'infirme de sondage débile, léger et léger. Est-ce que je peux prendre deux petites minutes de votre temps pour faire un sondage, madame?
Ça ne m'intéresse pas.
Ça va aller très rapide, madame. C'est de la
ça
voyance.
Ça m'intéresse vraiment pas. Appelez-moi.
C'est de, madame, très rapide, s'il vous plaît.
Je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas!
Bien triste nouvelle, cette semaine, il a été surnommé la voix d'or du Mali. Kassé Madi Diabaté est mort jeudi dernier à Bamako. Était surnommé la voix d'or du Mali. Kassé Madi Diabaté est mort jeudi dernier à Bamako à l'âge de 69 ans. Kassé Madi Diabaté, très connu dans les locaux de Radio France Internationale, Radio France Culture, était l'un des plus grands griots maliens, si ce n'est le plus grand. Avec sa voix d'or, il incarnait des pans entiers de l'histoire du Mali. Ce chanteur était né en 1949 dans le petit village de Kéla, près de la frontière guinéenne, berceau de la civilisation mandé. Et nos condoléances à ses amis et tous ses musiciens et les Maliens en général. Il était très 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 aimé par les Maliens. Alors voilà, c'est à notre façon de rendre hommage à cette voix d'or du Mali, Kassé Madi Diabaté, décédé jeudi dernier à Bamako. Et oui, madame, monsieur, est-ce que vous avez votre passeport pour faire le tour du monde sans laisser la ville? Le festival Karasoga est un événement familial de 3 jours qui se termine d'ailleurs aujourd'hui, qui vous invite à visiter, à tourner, à voyager dans 70 pays, dans divers pavillons situés dans la ville de Mississauga, deuxième en importance au pays. Chaque pavillon déborde de plats, des activités culturelles, de l'étranger. Le droit d'entrée donne un accès illimité à tous les pavillons. Le pavillon d'Afrique sera en pleine effervescence cette fin de semaine au son de la musique, au battement des tambours et au pas de danse avec plusieurs nouveaux artistes qui n'ont jamais joué sur la scène du pavillon d'Afrique. À surveiller, et dans un instant, pour nous mettre l'eau à la bouche, Olga Lambert, directrice générale du POM, People of Motherland. Tapis rouge, s'il vous plaît, un monde de culture. Olga Lambert, bonjour.
Bonjour Eric, comment tu vas?
Ah ben ça va très bien, nous sommes au cœur de la fête avec vous, 13e anniversaire, bon anniversaire.
Merci beaucoup, merci toujours pour le support de votre radio, merci encore, nous sommes là au pavillon,
oui.
La dernière journée du festival.
Et justement, parler, vous savez, il y a très très longtemps, quand j'étais plus jeune, il y avait ce même défilé dans les rues de Toronto avec un passeport. On pouvait aller de kiosque en kiosque, des pavillons en pavillons. J'ai l'impression que la ville de Mississauga a imité un peu ce concept.
Ça s'appelait caravane.
En effet. C'était très, très beau. On pouvait aller aux Philippines, danser, chanter, manger, en Ukraine, en Afrique. Et je ne sais pas pourquoi ça. Moi, j'étais au pavillon de Paris. Et là, il y avait des crêpes et il y avait Edith Piaf avec son accordéon qui chantait toute la journée. Et moi, j'étais un des animateurs.
Mais c'est ça, c'était Caravane. Moi, j'ai eu goût à en bénéficier à ma première année quand j'ai arrivé à Toronto. Mmh. Et après ça, ça a disparu. Oui. Et c'est ça, exactement, c'est Caravane.
Alors, parlez-nous un petit peu de l'ambiance, de l'effet effervescence dans ce site qui est Carasoga. 32e anniversaire, je pense. Hein?
Et on est à 33.
33e édition,
oui,
voilà.
Oui. Alors, c'est comme vous avez dit, c'est un peu comme Caravane, mais en plus gros parce que le festival grossit d'année en année. Et les visiteurs aussi, ça ne manque pas, surtout s'il fait beau, ce qu'on a eu cette fin de semaine. Et en général, on tourne autour de 350 000 visiteurs, le temps qu'on est fini.
Eh bien,
ça fait 3 jours. Oui.
C'est le deuxième festival en importance au pays. Il faut le faire et ça prend beaucoup de travail, beaucoup de bénévoles. Et comment faites-vous, Olga Lambert, quel est votre secret pour être dans ce pavillon d'Afrique? Parce que ça prend quand même beaucoup de travail hein, et de dévouement et de créativité aussi, parce qu'à chaque année, il faut aller trouver des artistes. Est-ce que vous recevez des subventions, de l'aide des municipalités ou du gouvernement? Comment faites-vous?
Le secret, c'est d'avoir la passion. De faire vivre sa culture et de passer son héritage à nos enfants et aussi de partager avec les communautés diverses qui était vraiment l'objectif de l'ancienne mairesse de Mississauga, un meilleur réseau, quand elle était là. Alors, je fais ça avec, vraiment avec beaucoup, beaucoup de passion. J'ai commencé avec mes enfants et puis ma collègue de l'organisme Georgette. Et ensemble, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail parce que nous sommes tous bénévoles. Et il faut absolument que ce soit un organisme à but non lucratif qui soit à la base de l'organisme qui fait le pavillon. Mmh. Alors ça, c'est le règlement d'office. Et effectivement, nous n'avons pas de subvention. Nous faisons ça en essayant de vendre les tables aux vendeurs qui vont prendre des tables pour pouvoir vendre leurs produits. Alors, on a un marché africain qui est là. Et aussi, on essaie d'avoir des commanditaires. Alors, on a des bons partenaires comme les centres francophones, le Collège Boréal, les conseils scolaires, en essayant de faire venir les enfants. Et avec ces petites commandites privées, comme je l'entends, pas surtout au niveau du gouvernement, on essaie de faire fonctionner le pavillon, mais c'est surtout beaucoup d'heures de nous-mêmes, beaucoup, beaucoup de passion.
Alors, le but de Carasoga, c'est vraiment d'éduquer, d'informer, de sensibiliser et de rendre aussi toutes ces cultures que nous retrouvons dans la grande ville de Toronto à Mississauga comme une valeur ajoutée à la culture canadienne.
Vous avez absolument trouvé le bon mot, c'est ça, la valeur ajoutée. Parce que si je reviens toujours à l'esprit qu'avait Meilleur Réseau, elle nous a toujours dit que Toronto l'avait invité à joindre à Caravane. Elle a dit, mais si je vais venir à Toronto, j'ai ma vie, je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée en disant, ben, s'il y a Caravane à Toronto, nous allons avoir la Caravane de Mississauga. Et c'est comme ça que Carasoga est née. Elle a commencé avec 10 pavillons. Et aujourd'hui, on est à plus de 70 pays, 32 pavillons, et ça ne fait que grossir. Mmh. Le pavillon Afrique est le seul pavillon qui demeure un continent, parce que les autres sont vraiment des pays. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie chaque année d'amener notre communauté d'Afrique, d'un pays qui représente l'Afrique, à venir au pavillon et faire partie du pavillon.
Et je rappelle aux gens que le pavillon d'Afrique célèbre ses 13 ans, madame, monsieur, et c'est le seul pavillon tout dans ce festival où on parle les deux langues officielles.
Absolument, absolument. On parle le français et l'anglais, toute notre programmation est en français et en anglais, même sur les trades, dans les programmes qu'on donne, tout est bilingue.
Et nous absolument. Sommes fiers de collaborer avec vous. Merci pour ce partenariat. Parlez-nous un petit peu des artistes de cette année que vous avez pu dénicher un peu partout au continent, sur le continent ou en Ontario.
Oui, c'est formidable parce que malgré qu'on est le pavillon Afrique, c'est très difficile d'avoir à montrer les 55 pays qui font l'Afrique. Alors, ce qu'on a commencé il y a quelques années, c'est toujours d'avoir des pays hôtes. Alors, on choisit 4 pays où on peut rejoindre les communautés en les indiquant de venir avec des pays hôtes. Nous avons déniché le Cap Vert. Alors, Eric, je te dis que j'étais ébahi parce que même moi, je ne savais pas qu'il y avait une communauté de Cap Vert qui était ici. Alors, nous avons le Cap Vert et n'ayant pas de musiciens, ils ont fait venir leurs musiciens des États-Unis. Alors, nous avons des musiciens du Cap Vert qui sont là. Nous avons le Congo, République démocratique du Congo, qui est aussi à l'honneur. Et nous avons la chanteuse Mivive, la Grande Royale, qui est venue de Montréal spécialement pour être sur la scène d'aujourd'hui. nous avons un jeune talentueux qui s'appelle Richard de la Côte d'Ivoire qui fait quelque chose de nouveau. On danse à la musique, mais on fait aussi du fitness. Ça s'appelle Jamboula. Alors, il est là aussi. Alors, on a Montréal avec la Côte d'Ivoire et le Congo. Et on a aussi le Cap Vert qui est là aussi. On a une jeune dame aussi du Botswana, parce que le Botswana est aussi, mais elle est localement ici.
Vous savez que j'ai grandi au Botswana, Gaborone, la capitale de Botswana, le beau pays que j'aime toujours.
C'est ça. Alors, on a quelqu'un. Et aujourd'hui, on a une jeune dame du Soudan qui va chanter. Elle est basée à Toronto. Alors ça, c'est tous les nouveaux artistes qui sont là. Puis on a ceux qui sont toujours de retour, comme au Nigeria, avec Tani Abou, Ibu Boudou, qui est là. On a la Tanzanie, qui a quelqu'un qui nous a fait une belle pièce avec Dimbira, Masai. Alors quand même, on est aussi un des pavillons qui a un spectacle toutes les 30 minutes. Ah, il y a toujours un spectacle continu, et c'est toujours un artiste différent. Mmh. Alors on est très, très versatile dans notre programmation, dans notre marché, dans la nourriture. Et quand vous rentrez dans le pavillon, Eric, une de ces années, il faut venir voir, c'est en Afrique. Nous avons des peintures qui sont géantes de 50 mètres, accrochées. On est dans un aréna de hockey. Alors, vous voyez un aréna de hockey, on occupe tout l'aréna. Et ça, c'est l'Afrique.
Alors, il y a aussi, je pense, des danses traditionnelles, mais aussi, est-ce qu'on invite aux jeunes, aux gens, de jouer les instruments ou
Oui. Vous savez, on dit qu'on amène les enfants quand ils sont là, on les laisse courir, parce que nous sommes quand même dans un à l'intérieur. Alors, les enfants n'ont pas peur qu'ils vont se perdre. Alors, ils courent. S'il y a des tatams qui sont là, ils jouent. Souvent, nous avons des tam-tams qui sont exposés ou des instruments qu'on peut avoir. Chaque année, j'ai un thème. Alors, un thème, c'est surtout pour éduquer. Parce que même si on fait la culture au niveau de la danse et du marché, il faut aussi avoir un côté éducatif. Alors, le côté éducatif, c'est nous qui choisissons. Il y a une année, j'avais les instruments de musique. Alors, j'en avais plein exposés. L'année dernière, c'était les belles coiffes. Qu'est-ce que ça veut dire porter un foulard en Afrique? Alors, on a éduqué sur ça. Et cette année, c'est les maisons traditionnelles. Alors, les huttes. Alors, j'ai les huttes de tous les pays d'Afrique qui sont en exposition ici.
Parlez-nous un petit peu des mets. Qu'est-ce qu'on a au menu?
Alors, au menu, nous avons l'Afrique de l'Ouest avec du riz jollof, du poisson braisé. Mmh. Nous avons aussi des mets du Ghana avec du kinké, qui est, vous savez, la pâte fermentée. Nous avons du thé, l'expérience du thé de l'Éthiopie. Nous avons, bien sûr, la noix de coco. Nous avons du rhum qui vient du Bénin. En tout cas, Eric, ça ne manque pas. Les odeurs, les saveurs, c'est vraiment...
Est-ce que vous avez du jus au gingembre?
Absolument. Ça, c'est la recette secrète de ma collègue Georgette. Alors, nous en avons du gingembre frais.
J'adore.
Et aussi du jus de bissap.
Le bissap, oui. Ça, c'est du jus d'oseille. Hein?
C'est ça. Le jus d'oseille, nous en avons aussi. Nous avons, jusqu'à l'année dernière, nous avons de la bière du Kenya. Tosca.
Oui.
Et puis, cette année, la régie des alcools a décidé de supprimer. Alors, nous n'en avons pas, mais nous avons du vin de palme. Mmh. Alors, du vin de palme traditionnel, nous en avons aussi. Alors, vous voyez qu'on est en Afrique.
Oui. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui sont en voiture ou qui aimeraient tout à l'heure aller faire une petite balade après l'émission, parlez-nous un petit peu de la direction et aussi où vous retrouvez dans cet emplacement, parce que c'est assez immense, hein, je pense, là où
oui.
vous êtes.
Oui. Alors, nous sommes vraiment centralisés. Nous sommes au centre Hershey, qui est le centre que tout le monde connaît dans Mississauga. Et une fois qu'on rentre dans le centre Hershey, il y a au moins une quinzaine de pavillons qui sont centralisés là. Les autres pavillons sont un peu éparpillés dans la ville, mais la beauté, c'est qu'une fois qu'on a fait son passeport et qu'on arrive, on peut garer sa voiture et avec le passeport, on peut prendre l'autobus de la ville, on rentre dans l'autobus, on monte le passeport, c'est gratuit et vous dites, vous voulez aller à quel pavillon et l'autobus vous dépose là. Alors, il y a tout un circuit, mais même déjà dans Rocher, vous pouvez passer la journée parce qu'il y a au moins une quinzaine de pavillons qui sont là.
Oui. Alors, c'est super, super, super. Et il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde hier parce qu'il faisait chaud hein, à Toronto.
Il y avait énormément de monde. Et je vais vous dire que vendredi, qui était l'ouverture officielle, c'est l'Afrique qui a fait l'ouverture officielle. Alors, nous avons eu tous les dignitaires. La première ministre de l'Ontario nous a fait grâce de sa présence. Nous avons la mairesse qui vient toujours. Nous avons les députés. Et c'était quelque chose parce que quand on a effectivement l'ouverture officielle, tous les autres pays viennent. Il y a une congrégation avec tous les drapeaux. Alors, il y a une danse des drapeaux. Et alors là, c'était vraiment tout un honneur d'avoir été choisi pour faire l'ouverture officielle en même temps.
Et je rappelle aux gens qu'il y a un site internet, c'est sur internet www.carasoga.com pour avoir la direction pour aller ça se termine à quelle heure aujourd'hui?
Ça se termine à 19h. Le passeport est 12$ pour les adultes. Et les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Alors, venez vous promener. Ça donne entrée à tous les pavillons.
Oui. Alors, bravo, félicitations. Avant de partir, parce que je sais que vous êtes très impliqué dans le social avec votre organisme. Vous faites un travail extraordinaire chez les jeunes francophones, surtout les immigrants, les nouveaux arrivants. Selon un récent article dans les médias cette semaine, chère Olga, nous avons appris que le nombre de demandeurs d'asile continue d'augmenter dans les refuges de Toronto. La majorité des demandeurs d'asile sont des ressortissants du Nigeria. Ils arrivent au poste frontalier de la Colle au Québec en provenance des États-Unis. De là, ils poursuivent leur parcours jusqu'à Toronto. La ville de Toronto reçoit maintenant en moyenne 10 nouveaux demandeurs d'asile dans ses refuges chaque jour. Et si la tendance se maintient, le nombre de demandeurs d'asile dans les refuges passera de 2683 à 4485 d'ici novembre 2018. Comment voyez-vous cette augmentation de demandeurs d'asile sur notre territoire?
C'est un peu triste ce qui se passe en Afrique, parce que je vais aller regarder plutôt du côté d'Afrique. Il faut que nos dirigeants prennent les choses en main. Nous avons un continent riche en tout ce qu'on a besoin pour vivre. Et malheureusement, les gouvernements ne suivent pas le pas et forcent les gens à sortir. La plupart des gens, s'ils avaient la chance, ne seraient pas à aller demander l'asile dans un pays. Ils sont un peu forcés, quelle que soit la raison pour laquelle. Alors, je trouve vraiment la tristesse dans nos pays d'origine, incluant le mien. Alors, c'est déplorable. Maintenant, pour ceux qui arrivent ici, je ne pense pas aussi que l'encadrement est assez fait. Les gens ont des aspirations, c'est démystifié. Bien sûr qu'on essaie de faire les choses pour que le processus soit plus rapide. Mais j'ai entendu un peu de ce que vous avez dit parce qu'on disait qu'on allait ouvrir d'autres centres pour les héberger parce qu'il n'y a pas de place. Au moins, en attendant que ça se fait. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le ministre de l'Immigration a annoncé des réformes. Comment est-ce que ça va être mis en pratique? Quand et comment? C'est aussi à voir. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Je souffre pour ces gens-là.
Alors, nous sommes en pleine campagne électorale. Personnellement, moi, je trouve ça morne parce qu'on ne parle pas de vrais débats, de vrais sujets. Il n'y a pas de tête d'affiche, de gens qui ont un peu de charisme. Je ne sais pas comment vous vous positionnez face aux élections en Ontario parce que il me semble qu'on ne parle pas non plus tellement des enjeux francophones ou de l'immigration dans cette campagne.
Non, et parce que je pense que souvent, je ne vais pas dire les politiciens, jusqu'à ce que nous, on les réveille en tant que francophones, on remet ça un peu au niveau fédéral. Si vous voyez qu'on fait une campagne fédérale, ces enjeux viennent. Alors que le problème est assez réel en Ontario. Alors, il faudrait que nous, nos instances qui nous représentent au niveau provincial, aussi réveillent. Parce que, comme vous avez dit, effectivement, je n'entends pas parler de francophonie, je n'entends pas parler d'immigration. Et pourtant, c'est réel. Vous venez de dire combien de personnes se présentent à la porte de l'Ontario. Alors, les enjeux, c'est vous, moi, ce que vous faites déjà. C'est un très beau travail, Eric, parce que vous prenez la peine à chaque fois cette émission de nous faire mettre en contexte, de nous valoriser, de nous remettre en question sur ces choses-là. Alors oui, c'est morne, mais votre émission prend toujours cette tête de fil pour le mettre en valeur.
D'ailleurs, la semaine prochaine, je rappelle aux gens que nous allons recevoir le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, M. Carole Jolin. Alors, si jamais il y a des questions, vous avez des questions, madame, monsieur, ou encore des sujets que vous aimeriez que je traite lors de cet entretien dimanche prochain, cela me fera plaisir. Et vous-même, Olga Lambert, vous êtes bien sûr toujours la bienvenue. Alors, je rappelle aux gens, aujourd'hui, c'est la dernière chance pour vous d'aller voyager, balader, vous amuser. Allez, il ne faut pas, s'habiller avec des cravates, costumes. Vous pouvez y aller parce que c'est déjà l'été en Ontario. Aujourd'hui, il va faire 30 degrés, je pense. Et d'ailleurs, les enfants qui sont accompagnés avec leurs parents pourront rentrer gratuitement.
C'est bien ça.
Oui. Alors, parce que le prix d'entrée, quoi, 10$?
Il est 12$. C'était 10$ d'avance, il est 12$ à la porte.
Oui.
Et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Alors,
et ne ratez pas surtout le pavillon d'Afrique, madame, monsieur, et allez voir Olga Lambert et toute sa belle équipe. Je vous souhaite bon succès, bon courage et félicitations. Bravo encore pour tout le beau travail que vous faites pour remettre l'Afrique et aussi la francophonie dans sa diversité à la une de nos activités culturelles et éducatives en Ontario. Bravo, bravo Olga Lambert.
Eh bien, merci à toute l'équipe de Popori parce que vous êtes un partenaire solide sur puisqu'on a toujours compté et vous nous le montrez très bien. Vous êtes là en gros, vous êtes vraiment un de nos commanditaires. Merci encore.
Et sur ce, les applaudissements de tous nos auditeurs et des invités qui sont autour de nous. Voilà. Bravo et à bientôt, Olga.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Et oui, madame, monsieur, le 9 juin prochain, le club Richelieu de Toronto vous invite à son souper annuel Steak Barbecue. Cela vous intéresse? Samedi le 9 juin, c'est samedi d'après, hein, à 18h au centre d'accueil Héritage, à place à Saint-Laurent, 33 Hand Place, Toronto. Prix de présence, réservation, information, info@richelieutoronto.ca. Du 14 au 22 juin, Ciné Franco est fier de co-présenter avec le festival du film italien le film Dalida, de retour à Toronto le lundi 18 juin à 20h45 au cinéma Cinéplex, Cinéma Vaughan, 3555 Highway 7 West. Allez sur le site www.cinefranco.com/événements pour tout savoir. Du 20 au 24 juin prochain, le centre communautaire LGBTQ plus de 519 Church de Toronto vous invite à la 10e édition du Green Space Festival. Une excellente occasion, hein, d'aider ce centre dans sa lutte contre toutes les discriminations dont sont victimes les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Je vous invite à participer en grand nombre au spectacle maîtrisé à la perfection par les meilleurs drag queens et DJ de Toronto. Allez, réservez votre carte d'accès VIP en suivant ce lien www.greenspaceto.org et un reçu pour fin d'impôt est remis si vous offrez un don à cet organisme. Et puis à ne pas oublier, nous allons avoir des émissions spéciales en marge d'un des événements marquants du Canada, la Gay Pride de Toronto, Gay Fierté Pride Toronto, comme vous voulez. Et envoyez-nous votre message à popourri@cut.fm si jamais cela vous intéresse à participer. Et du 22 au 23 juin, Francofest 2018, deux jours exceptionnels pour faire vibrer la francophonie dans la région de Hamilton. Le centre francophone de Hamilton présente le plus grand festival d'art et de culture francophone de la péninsule du Niagara. Allez découvrir ce florilège d'activités et des artistes du haut rendez-vous. www.francofesthamilton.ca. Et le 24 juin, je vous invite personnellement à la 37e édition de la fête de la musique, musique du monde. La fête de la musique, c'est la musique qui fête l'arrivée de l'été. C'est aussi un événement spectaculaire mondial grâce à la France. Ce sont plein de symboles. Et si cela vous intéresse, vous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Si vous êtes musicien, vous aimez la musique. Je remercie le Consulat général de France de Toronto et les artistes auditeurs, auditrices de la région de Toronto et du monde qui ont déjà envoyé des messages d'intérêt. Voilà, c'est tout le temps qu'on a pour vous. Je vous remercie beaucoup. DJ Devera, l'Express de Toronto, Mariette Muller de la région de Manitoba, Olga Lambert, RFI France Inter. Dimanche prochain, Carole Jolin, président de l'Assemblée de la Francophonie. Bon dimanche, bonne semaine et portez-vous bien. Ciao.
rew bala neex ñu bolo day liggé Balane